France Culture.
France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Fin décembre 1975 et en fin d'une après-midi paisible sur France Culture, Pierre Descargues allait laisser la parole à Thierry Garcin et à ses invités pour un match, un face-à-face sur les idées. Les idées du jour, ou de l'année, ou des 2000 ans passés sur la création, ou plus exactement sur l'absence de vraie création, sur l'absurdité de la libéralisation, il s'agit des mœurs, sur l'idéologie dominante, sur la veulerie d'une bourgeoisie vaguement laïcisante et pseudo-libérale. Ah, les valeurs blanches, mâles, françaises. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de création, il n'y a pas de liberté. L'ordre qui règne est l'ennemi. On pourrait s'amuser à attribuer ces phrases définitives à l'un ou à l'autre des invités, puis à intervertir la paternité des phrases en question. Les idées, la création, l'ordre, le désordre, l'impasse, le conformisme et l'anticonformisme, nous étions le 30 décembre 1975 dans les après-midi de France Culture. Un match avec Gong étant un parti à respecter.
Match. Malgré ces consignes apaisantes, il y a quand même un match aujourd'hui dans l'heure de pointe, préparé par Thierry Garcin.
Face à face aujourd'hui, Jean-Louis Bory et Jean Co. Jean-Louis Bory, ancien professeur de lettres, romancier, La peau des zèbres chez Gallimard, chroniqueur de cinéma au Nouvel Observateur, auteur aussi de Ma moitié d'orange chez Julliard dans la collection Idées fixes. Vous préparez un roman pour Gallimard, Tous nés d'une femme, qui doit paraître en mars. Jean-Louis Bory, vous n'avez pas pour la société établie une tendresse particulière et pour un peu vous brandiriez le fanion de la permissivité. De l'autre côté, peut-être de l'autre bord, Jean Co, qui lui brandirait plutôt le drapeau des valeurs morales. Vous avez publié cette année « Pourquoi la France ?» à la table ronde, suite à d'autres pamphlets, « Les écuries de l'Occident » et chez Albin Michel, « La lettre ouverte aux têtes de chiens occidentaux ». Un roman de vous sort en mars prochain chez Gallimard, « Les otages ». Vous avez été autrefois le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Alors la question, l'enjeu du débat aujourd'hui, le conformisme de l'anticonformisme, point d'interrogation. La règle du jeu, je vous la rappelle, vous avez chacun 10 minutes pour mettre à tour de rôle à la question votre adversaire. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux ni de trêve, on va tirer à pile ou face qui commence les hostilités. Alors disons pile Jean-Louis Bory et face Jean Co. Alors c'est face Jean Co, vous avez 10 minutes pour mettre à la question Jean-Louis Bory sur le thème du conformisme, de l'anticonformisme.
Eh bien, il me semble aujourd'hui que être conformiste dans 75 pour un intellectuel de gauche, et je crois que Jean-Louis Bory ne refusera pas cette étiquette d'intellectuel de gauche, il me semble que...
C'est déjà une première question.
Oui, je me considère comme un intellectuel de gauche. Oui.
Alors, je crois que vraiment ne pas être conformiste, c'est ne pas se soucier justement d'appartenir ou non à l'intelligentsia de gauche qui fait en ce moment la pluie et le beau temps, et dont les voiles sont si vastes que tous les vents s'engouffrent en elles. Je crois, deuxièmement, que c'est ne pas croire, être non-conformiste, mais ne pas croire aux diverses et innombrables libérations dont on me rebat les oreilles.
Alors la question, Jean-Co.
Il me semble que Jean-Louis Bory se targue d'être un intellectuel de gauche et prend ses précautions du côté de la gauche et ça s'arrange toujours pour que son propos, pour que sa démarche le fasse sur cette corde raide où il fait mine d'avancer, le fasse toujours tomber à gauche et dans un filet absolument confortable
Vous répondez à sa
quelle
place.
Quelle fille, à gauche. Ah non, 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 je l'accuse.
Oui, oui.
Et je crois,
il m'accuse d'avoir un filet.
Et je crois aussi qu'il plonge tête la première avec une allégresse extraordinaire dans la piscine des innombrables libérations et qu'il y patauge et qu'il s'y ébroue allègrement.
Bon, mais ça fait beaucoup pour vous, Jean-Louis.
Alors voilà, voilà.
Non, c'est-à-dire que je vois très bien ce que Jean-Claude veut dire, c'est qu'il me reproche en fait à moi d'être conformiste. C'est-à-dire d'être en accord avec les idées dans le vent. Alors, je lui répondrai que, d'abord, il faut savoir faire la différence entre les idées dans le vent et les idées à la mode. C'est que pour moi, la mode ou le snobisme intellectuel, je sens que Coe serait pas loin de m'accuser de snobisme intellectuel quand il parle que je patauge dans les piscines libérales et libéralisatrices
et tiède,
actuelles.
Et tiède.
Oui, mais elles sont tièdes, oui. Mais je veux dire qu'elles ne sont pas pour ça confortables. C'est-à-dire que voilà,
c'est
il y a...
Mâtre, c'est ce que vous voulez dire, Jean Coe?
Oh non, c'est-à-dire qu'ils sont tellement et tellement à s'ébattre qu'il y a vraiment assez peu d'eau, vous savez. Il y a un verre à coudre d'eau tellement
justement,
ils sont...
Justement, il n'y a pas d'eau, donc ce n'est pas confortable. Non, non, non. Mais trêve de plaisanterie, il faut venir à des choses très importantes. C'est qu'en ce moment, il y a en effet un mouvement, si vous voulez, libéral, notamment sur le plan des mœurs et des coutumes. Et c'est que ce mouvement se dresse contre tout le poids représenté par les usages et les coutumes qui ont pesé pendant des millénaires. La tradition, etc. Il y a tout un corps de gestes ou d'idées ou de pensées qu'il ne fallait pas faire ou qu'il ne fallait pas voir parce que ça ne se fait pas de les avoir ou ça ne se fait pas de les faire.
Mais comme c'était amusant, Jean-Louis Borré, justement, de transgresser des règles.
Si mais je les transgresse chaque instant.
Si vous voulez vous amuser dans la vie, si vous voulez vraiment avoir quand même le sentiment de vivre quelque chose, il faut justement qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, vous comprenez, s'il n'y a pas de chronomètre, comment voulez-vous avoir le champion? S'il n'y a pas de secret, comment vous voulez-vous le surprendre?
Par conséquent, vous défendez les règles pour se retrouver avec moi dans la piscine.
Mais je défends les règles, si vous voulez, parce que j'estime que s'il n'y a pas de règles, nous tombons dans une vaste anarchie
non.
qui devient une espèce de,
non,
de
non,
truc
non.
sans queue ni tête.
Il y aura d'autres règles. Il était bien évident qu'il ne pouvait pas y avoir l'anarchie complète. D'abord, je ne crois pas qu'elle existe. Et ensuite, qu'elle est purement transitoire. L'anarchie prépare toujours un autre ordre. L'anarchie n'est pas l'absence d'ordre, c'est le refus de l'ordre qui existe. Et je veux dire que vous, cher Coe, ou toi, puisque nous nous tutoyons,
oui.
Déjà, voilà un point non conformiste, c'est que nous nous tutoyons et que je crois que nous avons, sinon de l'estime pour nos idées, du moins une certaine amitié pour nos personnes. Par conséquent, voilà déjà
bien.
Un pavé dans la mare du conformisme.
Cet échange
c'est qu'on
d'affaires.
Peut s'engueuler,
d'accord.
Et nous avons tout à fait envie de nous engueuler,
mais sans
pour ça, d'accord, très bien. Par conséquent, moi j'accuse Coe. Ah ben non, c'est tout à l'heure.
Vous pouvez l'accuser en répondant, mais c'est Jean Coe qui a encore 6 minutes pour poser
bon,
des questions.
Bon, très bien. Alors, je réponds. J'accuserai Jean tout à l'heure. Par conséquent, là, je me défends en disant qu'il y a le poids du passé et que les règles, lorsqu'elles ont abruti les gens pendant, à mon avis, 2 millénaires et à peu près, il est temps qu'on refuse donc, ces règles et qu'on
dire,
en cherche
comment d'autres. Peux-tu dire une sottise aussi éclatante que celle-là, que les règles pendant 2 millénaires ont abruti les gens?
Mais regarde enfin, le résultat est minable.
Le résultat, c'est Jean-Louis Borry, c'est quand même tu es le produit de 2 millénaires de règles, de contraintes...
Et justement, le résultat, c'est que je barbote dans la piscine.
Et finalement, tu es quand même sortable, enfin, n'exagérons pas. Les règles de 2 millénaires, pourquoi pas remonter à 500 000 ans aussi, comme le prétend le MLF.
Alors, je vais lancer quelque chose qui va te faire grimper. Et au mur et grincer des dents, je crois, et je suis extrêmement sincère en disant ça, que si nous assistons à ce bouleversement actuel, que tu ne pourras pas nier, cette évolution des mœurs qui est extrêmement profonde, contre laquelle tu t'insurges, mais tu n'y pourras rien, mon pauvre petit cochon.
Mais c'est pas moi qui pourrais quelque chose.
C'est que, simplement, c'est qui... il y a eu ce fameux... Alors, je vais employer tous les termes qui vont te faire grimper au mur. Le conditionnement judéo-chrétien, accablé des séquelles d'une bourgeoisie vaguement laïcisante et pseudo-libérale, qui a fait que nous sommes dans un état tel que c'est plus possible, c'est plus vivable, c'est plus, j'allais dire rentable, c'est un terme qui pourrait te faire plaisir. Mais ce n'est plus possible, ce n'est plus vivable. Par conséquent, il faut que ça pète, il faut que ça change, et vive le petit cube d'eau dans lequel je me précipite pour barboter.
Moi, je crois que... c'est Gide qui disait que l'art vit de contrainte et meurt de liberté. Et je crois qu'il en est de l'art comme de n'importe quoi. et que s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a évidemment pas de création, et il n'y a même pas de liberté, car on sombre dans un espèce de chaos, une espèce de désordre, et dans une confusion tout à fait néfaste, où personne ne reconnaît personne. C'est vraiment la pelote qu'en mêle le chat.
Jean Cour, vous accusez Jean-Louis Bory de refuser le péché ?
Non,
je refuse de pécher avec toutes mes forces.
Bon, vous savez, refuser le péché, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Moi aussi, je refuse le péché.
Bah, demandez-le à Jean-Louis Bory, ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que ça veut dire, refuser le
péché ? Je n'ai pas conscience du péché. Je ne sais pas. Je sais ce qui est une erreur, je sais ce qui est une faute, je sais ce qui est un crime. Mm-hmm. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un péché. Le péché, pour moi, entraîne une conception religieuse qui m'est totalement étrangère.
Oui, moi aussi.
Je suis sereinement athée, par conséquent, l'idée de péché, de vie, cette vertu, ça me fait rigoler.
Oui, je veux dire qu'aussi l'idée de péché ne m'empêche pas de dormir. Non, ce que je veux dire, c'est que tout est ordre, tu comprends ? Que ce soit là, un corps, que ce soit un style, que ce soit le langage que nous parlons, nous l'informons, nous le construisons, nous essayons de le dessiner d'une manière, de la manière la plus harmonieuse possible, et je crois que tout est ordre. Et je crois que justement, ce qui est intéressant, c'est de transgresser l'ordre, mais à condition qu'il y ait un ordre.
Oui, mais si tu transgresses l'ordre, tu vas vers le désordre.
Un ordre. Oui, mais en même temps, il faut qu'il y ait une sorte de va-et-vient, et il ne faut pas se jeter dans le désordre à corps perdu, parce que le désordre, le dernier désordre, par exemple, le dernier désordre du langage, ce sera le dadaïsme, ou ce sera le lettrisme, ou ce sera n'importe quoi. Le désordre du corps, c'est la maladie. Le désordre du corps social, c'est l'anarchie. L'anarchie appelle quoi ? Elle appelle Pinochet. Elle appelle Pinochet, ou demain au Portugal, elle va appeler un ordre noir, ou un ordre rouge, je ne sais trop lequel. Donc, comme le disait Valéry, le monde vaut par les ultras, mais il dure par les moyennes. Il vaut par les excès, mais il dure par les modérés. Et il faut essayer de tenir, d'avoir une espèce de lucidité là-dedans. Moi non plus, je ne suis pas pour l'ordre à tout prix, pour l'ordre beauté, sanglé, obtus, imbécile, pour les vertus bourgeoises de 1880, etc., etc.
Bon, mais dont acte, hein.
Bien sûr, dont acte. Enfin, ne fais pas de moi à la fois Monsieur Thiers et les...
Et Joseph Prud'homme.
Et les Mirebourges, et je n'écris pas les romans de Sénaïde Fleuriot.
Il vous reste 2 minutes pour poser des questions, Jean-Co.
Bon, quelle question voulez-vous que je lui pose encore ? Je suis en train de lui en poser une. Je lui dis que l'ordre est toujours... que l'ordre n'est pas toujours et partout le premier ennemi. C'est ce qu'a l'air de croire Jean-Louis Bory.
Je crois que dans l'état actuel de choses, en France, je précise, et en 1975, l'ordre qui règne, pour moi, est l'ennemi. C'est-à-dire que cet ordre, sous des façades pseudo-libérales, essaie de maintenir toute une... Alors là encore, une terminologie qui va faire mousser la bave aux lèvres de Jean Cot. Mmh. C'est l'idéologie dominante en France. Mmh. En 1975, oui. Peut-être définie ainsi, ça je réponds à l'idée de Jean Cot. Je crois que d'abord c'est ce qu'il appelle les valeurs occidentales. Moi, Occident est un terme qui me fait brère. Enfin, je veux dire, les valeurs occidentales...
Ah, je dirais même mieux, moi non seulement je crois aux valeurs occidentales, mais je crois aux valeurs françaises même.
Bon, alors c'est ça. Bon,
c'est énorme, non ?
Et alors ? Ah oui, ça me paraît monumental.
Je te prouverai pourquoi les valeurs françaises.
Ça me paraît monumental. Mais justement, pour moi, cette idéologie dominante, alors que tu limites terriblement à l'hexagone, ça revient, je l'ai défini ainsi, et si tu veux, ça fera partie de mes questions tout à l'heure, c'est pour moi une idéologie qui est d'abord blanche, ensuite mâle, et ensuite bourgeoise. Blanche, mâle, bourgeoise. C'est évidemment autour de ces trois valeurs-là que tournent les valeurs occidentales et plus précisément françaises. Or, moi, je refuse que le respect envers cette idéologie dominante. Et il ne dit pas qu'elle ne domine pas en France en 1975. Ne dit pas que le respect de ces valeurs-là n'est pas le conformisme précis. C'est cela, être conformiste. C'est respecter cette idéologie dominante sous prétexte, justement, qu'elle est française, c'est-à-dire qu'elle répond à une série, à tout un code d'habitude de pensée, et habitude devient péjorative.
Alors Jean-Louis Bory, toujours sur le thème du conformisme, de l'anticonformisme, cette fois-là, vous avez 10 minutes pour poser des questions à Jean Cot.
Bon, alors, je réponds. Alors j'enchaîne, c'est magnifique. Je voudrais que Jean Cot me précise lorsqu'il dit « je crois ».
Ce qu'il entend par valeur française, par exemple. Eh bien oui, eh bien Jean-Louis Bory, figure-toi que je crois que c'est en étant le plus singulier possible qu'on est le plus universel possible. Je crois que c'est parce que Cervantes est le plus grand des écrivains espagnols, et Dieu sait s'il est espagnol, laisse-moi parler, que Cervantes est un grand écrivain. Je crois que Dostoïevski, c'est le russe par excellence. Il y a tout ce que nous aimons, la pitié russe, le cœur vaste comme le monde, la tendresse immense, etc., etc. Et c'est pour cela que Dostoïevski nous touche. Bien. C'est parce que Shakespeare est un russe, c'est parce qu'il y a une musique allemande qu'elle est devenue
universelle, etc. Et parce que je suis beau sang, d'accord,
continue. Je crois donc que c'est en étant quelqu'un, c'est en étant une personne, c'est en étant différent, par exemple, c'est en étant un homme, un mâle, ce qui a l'air d'être effrayé.
Je retiens ce terme différent sur lequel je t'attaquerai tout à l'heure.
Sauf dans ta vie privée.
Bah, faites-le tout de suite si vous voulez.
Non, non, parce que je voudrais qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée, elle m'intéresse.
Je disais donc que c'est plus, c'est en étant différent, c'est en étant quelqu'un, c'est en étant un homme, par exemple, et non pas une femme, et je suis un homme, en étant un mâle même, et en assumant une certaine virilité, que je peux donner quelque chose à quelqu'un, que je peux échanger quelque chose avec lui. Si je ne suis rien, si je ne suis personne, quel échange veux-tu que nous ayons? Quelle différence,
précise davantage.
Quelle différence aurons-nous à nous communiquer, etc. Et quand je dis qu'il y a des valeurs françaises, oui, je crois que Balzac est français, que Racine est français,
oui,
que Bonnard est français,
quelles sont ces valeurs,
que Monet est français, oui, oui, oui. Que Renoir est français. Eh bien, c'est des valeurs que secrète une terre, que secrète une histoire, que secrète une tradition, que porte une langue. Nous ne parlons pas l'espagnol, nous ne parlons pas l'allemand et nous ne parlons pas l'anglais.
Quelles sont ces
et
valeurs?
Et je crois que juste aujourd'hui, nous voyons dans le monde, à travers les nationalismes, et je suis nationaliste, et je suis français, et j'aime mon pays, que nous voyons cela justement...
Je suis français,
mais
je ne suis pas nationaliste.
Que nous voyons justement avoir cette nostalgie, et que nous voyons les peuples y accourir. Par exemple, un truc qui est vraiment bouleversant, ça a été la création de l'État juif. Et qui a dit, il y a des valeurs juives, il y a des valeurs de tradition, il y a des valeurs d'histoire, nous avons un passé, nous avons une communauté ensemble. Donc, vois-tu, je crois à la différence, je crois à la personne, je crois à l'individu, je ne crois pas aux confusions dont l'art contemporain nous donne un exemple absolument atterrant, puisqu'on ne peut absolument pas distinguer une musique allemande d'une musique mexicaine, un peintre danois, un peintre danois, d'un peintre japonais, qui sait très bien qu'à travers les tachis,
c'est pas la bouillie pour les chats,
concrète, etc., on ne peut faire aucune différence. Et nous en arrivons à la grisaille des confusions. Et la grisaille des confusions fera de nous des moutons, fera de nous un troupeau et justement amènera la possibilité des totalitarismes. Car qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est avoir une vision totale du monde et vouloir l'imposer aux autres. Ce n'est pas mon cas. Et vois-tu, je suis peut-être à la fois plus libéral et beaucoup moins conformiste que
tu me semble le croire. Mais dites-moi, les communistes peuvent être nationalistes aussi?
Ils le sont terriblement.
Les communistes, alors, ils sont le cul entre deux chaises. Tantôt, ils sont conservateurs, ils sont pour ceci et pour cela. Et ils ont le drapeau rouge d'une main et le drapeau tricolore de l'autre. Bon, c'est leur jeu. Ce sont des nationaux communistes. Après tout, il y a eu des nationaux socialistes. Eh bien, il y a aujourd'hui des nationaux communistes.
Bon, il y a une chose que je voudrais t'interroger sur le terme « différence ». Lorsque tu m'as justement... je crois que le désordre commence avec la différence. Et que, pour moi, ce qui me touche énormément, c'est que n'est valable une civilisation qui reconnaît le droit à la différence et la reconnaissance de la différence, avec ce que ça entraîne de tolérance et de liberté.
Nous sommes tout à fait d'accord.
Bon, très bien. Alors, je voudrais que justement, on soit suffisamment différent d'une société pour résister au conditionnement intellectuel qui est celui qu'implique le respect des usages, le respect des coutumes, le respect de la tradition.
Enfin, tu sais très bien qu'en ce moment, la bourgeoisie a jeté son froc aux orties, est totalement dévergondée. La pauvre a peur de rater le dernier train de l'avant-garde et monte dans n'importe quel train qui passe dans la gare, même si ce sont des omnibus. Tu sais très bien que vraiment aujourd'hui, pour avoir les faveurs, y compris presque les faveurs de l'État dans les maisons de la culture, par exemple.
Oui,
même si on n'a pas une étiquette gauchiste, on a peu de chances d'être un nommé directeur d'une maison de la culture. Et que ce soit n'importe quel séminaire...
Qu'il y ait une volonté d'évolution, c'est clair.
Il
n'y
a pas
une
volonté d'évolution. Ce pauvre État, cette pauvre bourgeoisie, elle a peur tellement de défendre ce que peut-être elle devrait défendre, qu'elle se déculotte d'une manière tout à fait éhontée.
Que devrait-elle défendre,
Et sais-tu pourquoi cette malheureuse
Attendez, il y a une question là, quand même.
Que devrait-elle défendre?
Je trouve qu'elle devrait...
La tradition.
Je trouve d'abord que...
Il vous reste 5 minutes.
Je trouve que d'abord, il y a quelque chose d'infiniment abject à ne pas se défendre en tout état de cause. On peut récuser cette bourgeoisie, c'est mon cas. bon, à ma, dans mes bons jours. Mais je trouve que le spectacle de sa lâcheté et de ses abdications est tout à fait navrant. Et pourquoi elle n'ose pas se défendre ? Parce que elle est tellement empoisonnée par l'image qu'elle a donnée d'elle-même au,
ben voilà.
au 19e siècle.
Eh ben voilà.
La malheureuse.
Et que c'est une image réelle, c'est-à-dire que c'était vraiment...
Qu'elle a une peur épouvantable.
C'est ce que tu me reprochais tout à l'heure, ce que j'appelle l'abrutissement.
Bien sûr. Qu'elle a une peur épouvantable aujourd'hui, comme je te le disais, de rater le train. Si bien qu'elle n'ose plus exercer la
parce qu'elle a terriblement mauvaise conscience et elle a raison d'avoir mauvaise conscience.
La moindre des autorités. Elle est en train d'y passer et dans la mesure où un certain Occident ou une certaine société libérale ou une certaine histoire est liée, qu'on le veuille ou non, à elle, je déplore certains jours
ça
sonne infâme lâcheté qui, si tu veux, elle a quelque chose de tout à fait inquiétant, c'est qu'elle a la trouille. Et elle a un complexe absolument.
Elle a raison d'avoir
que la trouille. Que n'ont pas, par exemple, les socialistes. Parce que je ne sais pas si tu as visité une usine. Dans une usine, le contremaître ou le chef d'atelier n'hésite pas à dire à l'ouvrier, dis donc Léon, tu fous rien, moi je vais te faire un truc pour absentéisme.
C'est l'ordre.
Je vais râler, etc. Et l'ouvrier, il sait qu'il a affaire à un père, à une sorte de capot, disons, qui ose lui parler. Ce que le gauchiste appelle les petits chefs.
Les chefs haillons.
Et qu'ils attaquent d'une manière très subtile, puisqu'entre les deux wagons, si tu veux, ils s'efforcent de supprimer le soufflet. Tandis que les gens au pouvoir aujourd'hui n'osent pas, tu comprends. C'est exactement comme la dame qui dit à son majordome d'engueuler la bonne. Parce qu'elle, elle n'ose pas. Elle a peur, ça l'embête,
etc. Non, mais ça, que la bourgeoisie
etc.
est en effet mauvaise conscience, tandis parce que qu'elle s'est mal conduite,
souviens-toi, au plan politique, lorsqu'il y avait des ministres socialistes qui étaient ministres de l'Intérieur, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jules Moc, ils se conduisaient justement comme deux petits chefs, parce qu'ils n'avaient pas de complexe, ils connaissaient leur frère Coco, etc., etc.
Il vous reste 3 minutes, Jean-Louis Borry.
J'aurais posé une dernière question. Tout à l'heure, Co a dit que le désordre pour le corps, c'était la maladie. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je voudrais qu'il me réponde de ce qu'il pense du plaisir. Et c'est-à-dire que le désordre... Est-ce que le plaisir est un désordre ?
Non, le plaisir n'est pas un désordre et l'érotisme n'est pas un désordre. Mais je crois que la sexualité, le plaisir, l'érotisme, tout ce que tu voudras, c'est l'aventure la plus secrète de l'être. Et ce que je trouve absolument déplorable aujourd'hui, et même grotesque à certains égards, c'est qu'on met cela dans des livres, c'est que des savantas en discutent, c'est qu'on fait l'amour derrière la vitre d'une clinique avec des étudiants qui prennent des notes. On donne aux gosses de 10 ans une éducation sexuelle. Moi, j'ai lu La Fontaine, je sais comment l'esprit venait aux filles et comment il venait aux garçons par une après-midi de printemps, et c'était un oiseau dans l'arbre voisin qui te sifflait
c'est
le cours d'éducation.
C'est charmant.
Qui te sifflait le cours d'éducation sexuelle.
Mais ça fait
sexuelle,
les obsédés sexuels de 40
et
ans.
En une heure, tu en apprenais plus qu'en lisant toute la littérature danoise, ou tous les docteurs maignants de la Terre. Et je trouve que cette aventure sexuelle, que la sexualité, que le plaisir, c'était vraiment dans cette société de conditionnement, dans cette société où nous sommes encadrés, où nous sommes tassés les uns contre les autres, où nous sommes mis en fiche, mis en carte, surveillés, observés, accompagnés, soignés par de mystérieuses sécurités sociales, etc., etc. Je trouve qu'il nous restait justement quelque chose qui était l'alcôve, qui était le plaisir, qui était cela. Et cette espèce de mise en tranche, de découpage, de dévoilement du plaisir, de l'érotisme, cette massification du plaisir aujourd'hui me semble plus chargée de névrose, plus chargée d'impuissance que ce que nous avons vécu, peut-être pas au 19e siècle, et là, il y a hélas cet odieux 19e siècle. Mais je crois qu'au 18e siècle, on s'en tirait très bien, qu'au 16e siècle, on s'en tirait
18e siècle, c'est une question. Non, Jean-Co, alors ça, c'était une question de...
Le match d'aujourd'hui, organisé par Thierry Garcin, vient d'opposer Jean Co et Jean-Louis Borry.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Thank you.
Thank you.